France Culture.
C'est une première depuis 10 ans, pratiquement une volte-face inattendue. Le 7 avril dernier, les États-Unis ont entamé des négociations directes avec l'Iran, alors que Téhéran n'acquiert pas, n'acquiert pas la bombe atomique. Ces négociations se poursuivent depuis lors d'une manière directe entre Steve Witkoff, émissaire américain au Moyen-Orient, et Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères. Mais comment comprendre justement la résurgence de ces négociations? Sur quel type d'accord peuvent-elles déboucher? L'Iran est-il dans une fuite en avant sécuritaire et est-il sur le point de disposer ou non de la bombe nucléaire? Pour en discuter, pour en débattre même, deux invités ce soir. Armin Arefi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter au Point, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Iran. Vous êtes ancien correspondant à Téhéran et l'auteur de cet ouvrage qui a paru aux éditions Plomb en 2019 intitulé « Un printemps à Téhéran, la vraie vie en République islamique ». Face à vous, Julia Tomasso, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante-chercheuse à l'IRIS, spécialiste des politiques de défense et des cultures stratégiques au Proche et au Moyen-Orient, notamment celle de l'Iran. Vous êtes également spécialiste de l'industrie de l'armement. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Questions du soir.
L'Iran veut-elle se doter de l'arme nucléaire? C'est un soupçon ancien. Il remonte à la révolution islamique de 1979. L'Iran s'était alors tourné vers le bloc soviétique pour développer son programme nucléaire, présenté comme civil et non militaire.
Aujourd'hui, les États-Unis, avec leurs alliés et partenaires, ont conclu un accord historique avec l'Iran. S'il est complètement respecté, il empêchera l'Iran de se doter de l'arme atomique.
Tous les regards tournés ce samedi vers le sultanat d'Oman, tant l'enjeu est majeur. Américains et iraniens y entament des négociations à huis clos sur le nucléaire. Donald Trump, qui avait tourné le dos à l'accord de 2015 sous sa première présidence, menace aujourd'hui de bombarder l'Iran en cas d'échec de ces négociations.
Je suis pour empêcher l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Je veux que l'Iran soit grand, prospère et formidable.
Bien que nous ayons de sérieux doutes sur les intentions et les motivations de la partie américaine, nous participerons malgré tout aux négociations en faisant preuve du sérieux qui caractérise la République islamique d'Iran et avec une détermination sans faille.
Alors on va s'intéresser au contenu, à la substance de ces pourparlers, de ces négociations retrouvées, mais je voudrais d'abord que l'on tente de comprendre cette volte-face, ce revirement. Pourquoi les États-Unis et l'Iran se mettent soudainement à se reparler sur cette question du nucléaire iranien? Armin Arefi, côté iranien d'abord, est-ce qu'il faut le comprendre par la faiblesse de l'Iran sur le plan régional et sur le plan intérieur? Est-ce que cette faiblesse vient expliquer l'intérêt qu'a l'Iran de renouer des dialogues et des conversations?
Alors oui, tout à fait. Alors tout d'abord, ce n'est pas une surprise d'un point de vue américain, car Donald Trump a toujours déclaré qu'il souhaitait négocier avec la République islamique. Ça l'est davantage côté iranien. Il ne faut pas oublier que quelques jours avant la révélation par Donald Trump de ses pourparlers au départ secrets, le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, le véritable chef de l'État iranien, avait exclu toute discussion avec le grand Satan, les États-Unis d'Amérique. Donc pourquoi expliquer cette volte-face? Alors, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'Iran est affaibli sur la scène intérieure, étouffé sous le poids des sanctions américaines unilatérales déclarées par adoptées par Donald Trump dès 2018, date à laquelle il s'est retiré unilatéralement de l'accord sur le nucléaire iranien. L'Iran est également la cible de manifestations régulières de la part de la population, de plus en plus fréquentes, qui sont à chaque fois réprimées dans le sang, avec des revendications de liberté, mais également économiques. On a une situation économique qui n'est pas solvable pour le régime, qui n'arrive pas à s'en sortir, fruit aussi bien des sanctions internationales que des problèmes de gestion de l'économie iranienne de la part du régime. Et on a également un Iran affaibli au niveau régional qui avait réussi avant le 7 octobre à accéder à la Méditerranée, à développer son axe pro-iranien, l'axe chiite, Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth, en passant par Sana'a au Yémen.
L'axe de la résistance.
Exactement, l'axe de la résistance à Israël et aux États-Unis. Et cette taxe a volé en éclats au lendemain du 7 octobre. Après donc les massacres du Hamas, la riposte israélienne a vu le Hamas être considérablement affaibli à Gaza. Israël s'en est également pris à d'autres proxys, d'autres alliés de l'Iran dans la région. Le Hezbollah qui a été considérablement affaibli. Bachar el-Assad qui a été renversé, non pas directement par Israël, mais ça a été une sorte d'effet ricochet, étant donné que le Hezbollah n'était plus disponible, plus présent, en tout cas très affaibli pour pouvoir le soutenir face à la rébellion islamiste sunnite qui l'a renversé. Et donc un Iran qui également depuis maintenant un an et demi, enfin même un an plus tôt, voit la guerre secrète Iran-Israël qui avait cours depuis maintenant 10 ans viser directement le territoire iranien. Donc il y a eu 2 salves d'échanges de tirs entre l'Iran et Israël, et le résultat aujourd'hui, c'est que la défense antiaérienne israélienne, iranienne, a été affaiblie, a été même liquidée par Israël, si bien que l'Iran se retrouve nu. Donc, on sentait côté iranien que c'était le moment de parler avec les États-Unis, d'autant plus que Donald Trump ne fait pas mystère de sa seconde alternative, donc qui serait de frapper, bombarder les sites nucléaires iraniens si aucun accord a été trouvé. Donc, c'est un signe terrible de faiblesse de la part de la République islamique qui a réussi à passer outre le fait de parler avec le grand Satan, ce qui n'était pas forcément gagné. Il ne faut pas oublier que c'est Donald Trump donc, qui s'est retiré unilatéralement de l'accord sur le nucléaire iranien, mais que c'est également Donald Trump qui a éliminé le chef de la branche extérieure des gardiens de la Révolution, Qassem Soleimani, en 2020. Donc les Iraniens qui restent pragmatiques, les ayatollahs iraniens, ont décidé de franchir le Rubicon pour s'installer dans une seconde phase, celle des négociations qui peut être beaucoup plus longue et qui ne garantit pas que Donald Trump arrive à ses fins.
Si je décris le puzzle que vous avez assemblé à l'instant, dans le fond, l'Iran, c'est un pays qui se sent actuellement, présentement, profondément menacé hein, sur le plan intérieur, sur le plan régional également. Julia Tomasso, est-ce que vous voyez d'autres dimensions qui ont pu précipiter justement le renouement de ces négociations entre l'Iran et les États-Unis? Il y a peut-être une dimension également, c'est que les États-Unis ont augmenté le nombre de leurs forces en présence dans la région, et cela vient ajouter de la menace à la menace, selon l'Iran.
Oui, c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, comparé à la situation en 2015, on voit que le paysage stratégique a profondément changé sur plusieurs aspects. Et je pense que le rapport de force diplomatique aujourd'hui entre les puissances est totalement différent qu'en 2015. Donc, par exemple, toutes les grandes puissances, les États-Unis d'Obama, l'Europe, la Russie, la Chine, coopéraient en 2015 pour négocier avec un Iran qui était relativement isolé, mais désireux de sortir des sanctions. Aujourd'hui, en 2025, on assiste vraiment à un éclatement de cette unité internationale. Les États-Unis de Donald Trump ont cette posture vraiment et adoptent une posture beaucoup plus forte, beaucoup plus unilatérale et maximaliste comparée à Obama en 2015. Donc, Washington veut un Trump deal et donc c'est ça qui est intéressant de regarder aujourd'hui dans l'accord qui est en train d'être négocié. C'est qu'il y a un paradoxe apparent avec le président Obama justement en 2015. Et aujourd'hui, Donald Trump veut vraiment négocier quelque chose qui serait à son image et donc qui ne veut pas ressusciter vraiment l'accord de Obama, mais il veut aller de pair avec sa pression maximaliste. Il ne veut pas avoir l'impression de retourner un petit peu sa veste et d'être moins assertif, moins fort vis-à-vis de l'Iran. En fait, il veut présenter un deal en disant « Voilà, regardez-moi l'Iran, j'arrive à négocier avec eux, avec quelque chose où ils cèdent beaucoup plus avec moi. » Et avec un accord qui serait plus large que celui négocié en 2015.
Je vous permets de vous couper, pardon, pour vous, Armin Arefi, c'est cette logique-là qui anime Donald Trump en ce moment. Il a souhaité régler, juste quelques semaines après son accession au pouvoir, le conflit en Ukraine. Il a voulu faire de même, et en réussissant pratiquement justement au Proche-Orient, je pense notamment au conflit entre Israël et Gaza. Il voudrait aussi trouver un deal concernant l'Iran. C'est cette logique-là de puzzle, de deal supplémentaire qui l'anime aujourd'hui ?
Alors, c'était une grande question il y a encore un mois. On se demandait quelles étaient les réelles intentions de Donald Trump. Était-ce un nouveau deal ou était-ce un prétexte pour faire la guerre à l'Iran ? Aujourd'hui, d'après ce que l'on voit lors de ses premiers pourparlers, il semble bien que Donald Trump souhaite absolument négocier un accord, un deal à son image, comme l'a dit ma voisine, et qui souhaiterait donc arriver à quelque chose, donc un accord spectaculaire qui ne serait pas l'accord d'Obama, qui serait un accord à la Trump. Le problème, c'est que, un peu comme ce qu'il a annoncé concernant l'Ukraine, un peu par rapport à également ce qui s'est passé à Gaza, on a l'impression que ce qu'il souhaite est au moins aussi, on va dire, aussi fort que Barack Obama. Je m'explique, c'est-à-dire que Donald Trump, aujourd'hui, dans les premières déclarations, il annonce qu'il ne veut pas que l'Iran ait la bombe atomique. Ça tombe bien, c'est exactement ce que annonce depuis toujours le régime islamique. Lorsqu'on va un peu plus loin...
Sur
le papier, bien évidemment. C'était ironique, mais sur le papier, effectivement, l'Iran ne veut pas la bombe et Trump ne le veut pas non plus. Ce qui pourrait permettre à ces deux interlocuteurs d'arriver à un accord. Maintenant, encore une fois, aujourd'hui, Trump, en tout cas son envoyé spécial, affirme qu'il... Alors, on a des déclarations contradictoires, mais il semble qu'ils ne sont pas prêts à revenir sur le droit de l'Iran à l'enrichissement, c'est-à-dire que l'Iran continue malgré tout à enrichir de l'uranium, mais à des taux beaucoup moins élevés. Ça correspond, pour moi, peu ou prou, à ce qui avait été déjà négocié sous Barack Obama. Donc, on a un Donald Trump qui veut négocier un nouveau deal avec l'Iran, mais qui correspond, à mon sens, encore une fois, à cet accord qu'il considérait comme un accord catastrophique qu'il avait négocié sous Barack Obama. Donc on a, c'est quand même assez frappant, et aujourd'hui beaucoup de membres de son administration, les faucons anti-iraniens que sont Marco Rubio, le secrétaire d'État, mais également Waltz, le conseiller à la sécurité nationale, s'alarment du fait que le président américain serait prêt à ce que l'Iran conserve une capacité d'enrichissement d'uranium. On a aujourd'hui au sein même de l'administration de Trump une dissension entre ceux qui souhaitent à tout prix un deal. C'est le cas de Donald Trump, le vice-président J.D. Vance, mais également Steve Witkoff, qui ne sont pas des spécialistes du dossier du nucléaire iranien, et d'autres qui sont un peu plus connaisseurs, que sont Marco Rubio et le conseiller à la sécurité nationale. Le problème étant qu'aujourd'hui, celui qui négocie, c'est Steve Witkoff, qui a face à lui des négociateurs iraniens hors pair qui maîtrisent parfaitement le sujet, et ce qui pourrait laisser entendre que l'Iran se verrait accorder de l'enrichissement à un taux certes moins important, mais en tout cas, c'est une ligne rouge que Donald Trump serait prêt à accepter.
On va revenir sur Steve Witkoff, un bien plus spécialiste des questions immobilières que de la question du nucléaire iranien. Vous l'avez dit, hein, l'un et l'autre, dans le fond, c'est un accord, l'accord de Vienne, l'accord de 2015, qui avait été qualifié par Donald Trump d'accord catastrophique. Quelles ont été, Julia Tomasso, les conséquences du retrait américain de cet accord en 2018 ? Est-ce que cela a mis fin à toutes ces négociations qui avaient été entreprises, ou quelque chose a pu être poursuivi tout de même ?
Je pense que quelque chose a pu être poursuivi d'une certaine manière pour les États-Unis, évidemment. Pour l'Iran, ils ont perdu ce levier de négociation avec l'Europe. Les entreprises américaines et européennes se sont retirées justement en Iran. Les sanctions ont été beaucoup plus fortes. Il y a eu les sanctions américaines se sont imposées après 2018 pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, le régime iranien est complètement sous l'étau de cette pression américaine. Et donc finalement, tout espoir d'avoir les Européens avec eux, malgré la sortie de Trump de l'accord, n'ont pas du tout marché. Et aujourd'hui, le régime iranien a négocié, je pense, avec les États-Unis aussi parce que l'Europe aurait perdu cette crédibilité vis-à-vis du régime iranien. Et donc, c'est vers Trump qu'il se tourne aujourd'hui pour négocier cet accord.
Un acteur central dont on n'a pas encore parlé, c'est évidemment Israël. Quel est le rôle joué, Julia Tomasso, par Israël dans le renouement de ces négociations entre les États-Unis et l'Iran ? On sait sait que les liens sont forts hein, entre Donald Trump et le Premier ministre israélien. On sait également qu'il fait pression pour que les sites nucléaires soient directement attaqués. Du point de vue militaire, il n'a pas obtenu gain de cause. Quel est le rôle aujourd'hui joué par Israël dans ce jeu-là ?
Alors, Israël aujourd'hui considère le programme nucléaire iranien vraiment comme une menace existentielle. Il a adopté une position vraiment de tolérance zéro à ce programme. Et essentiellement, Israël ne veut pas que l'Iran puisse développer cette capacité de développer l'arme nucléaire, ni la possibilité de menacer la région via ses milices et ses missiles. Et donc, c'est ce qui se traduit vraiment par des exigences maximales et une préparation à agir unilatéralement, comme l'a montré justement les récentes déclarations, si ces exigences ne seraient pas satisfaites. Donc, aujourd'hui, pour Jérusalem, le seul bon accord, ce serait vraiment un accord qui élimine entièrement la possibilité d'une bombe iranienne. Et en clair, Israël veut vraiment l'affaiblissement temporaire de l'Iran pour frapper un grand coup diplomatique justement ou militaire qui réglerait la situation ou définitivement le problème. Et par conséquent, tout accord qui serait jugé comme intermédiaire laissant à l'Iran un petit peu cette capacité d'enrichissement serait vraiment jugé insatisfaisant pour Tel Aviv. Et donc, c'est ce que Israël pousse vraiment en ce sens. Mais c'est intéressant de voir justement l'impact que ça peut avoir sur les relations entre les États-Unis et Israël, qui justement ont une relation assez forte, même très forte, une vision commune, une vision personnelle entre Trump et Netanyahou. Donc, on a pu voir justement que la moindre divergence apparente entre les deux pays, lorsque Witkoff semblait accepter un enrichissement plafonné, la réaction israélienne a été immédiate. Et donc, sous 24 heures, on a pu voir Witkoff faire un peu retourner sa chemise. Donc voilà, donc c'est intéressant de regarder ce qui va se passer du côté américain, mais Trump ne fera rien sans avoir l'aval de Netanyahou avant ça.
La voix justement de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, il s'exprimait le 15 avril dernier.
Today, the dictator of Iran, the Ayatollah Khamenei, posted this.
Aujourd'hui, le dictateur de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, a publié ceci. Le titre est « Pourquoi le régime sioniste, c'est-à-dire Israël, doit être éliminé de la région ?» Donc là, vous avez le dirigeant de l'Iran qui déclare ouvertement, encore, que le but est de détruire l'État d'Israël. Existe-t-il une chose plus éhontée que de penser qu'ils peuvent négocier la paix avec les États-Unis ? Israël ne sera pas éliminé. Ce qui doit être éliminé est l'axe de la terreur iranien et son programme d'armes atomiques, pas seulement pour notre propre sécurité, mais aussi pour la paix de toute la région et du monde.
Armin Arefi, qu'est-ce que cela pourrait donner de frapper un grand coup militaire, pour reprendre l'expression qui vient d'être employée ? Qu'est-ce que cela pourrait donner, à part du désastre, mais sur le plan stratégique ?
Déjà, Israël ne peut pas frapper les sites nucléaires iraniens sans l'aval politique, tout du moins politique des États-Unis, et
pourquoi ?
Même sans une aide, parce qu'ils ont besoin de bombes américaines, les GBU-57, qui perforent les bunkers, donc bombes anti-bunkers, qui perforeraient les bunkers iraniens et frapperaient à 70 mètres en dessous de la Terre, là où se trouvent les sites d'enrichissement d'uranium, et pour l'instant, d'après ce que l'on sait, elles n'ont pas été livrées. Israël aura également besoin d'une aide, on va dire, logistique, une aide aérienne, un appui aérien américain. D'ailleurs, on sait d'après le New York Times que Benjamin Netanyahou voulait profiter de ce début de printemps de cette fenêtre de tir pour frapper les sites nucléaires iraniens et que Trump a tout simplement dit non parce qu'il voulait donner sa chance à la diplomatie. Donc, pour répondre à votre question, Israël souhaite repousser, donc considère le programme nucléaire iranien et la possibilité pour l'Iran d'avoir une bombe comme une menace existentielle, et il souhaite repousser au maximum cette menace. Il sait que de frapper les sites nucléaires iraniens n'anéantiront pas totalement le programme nucléaire iranien, qui est aujourd'hui extrêmement avancé par rapport à l'époque de l'accord sur le nucléaire de 2015, mais qu'il le repousserait à minima de 5 à 10 ans. Et donc, c'est la raison pour laquelle il souhaiterait profiter de sa fenêtre de tir. Et le fait qu'aujourd'hui, l'Iran est affaibli, aussi bien par rapport à ses proxys, ses groupes affiliés dans la région, Hezbollah, Hamas, Bachar el-Assad n'est plus là, les Houthis au Yémen, donc qui sont extrêmement affaiblis, mais également sur le fait, par rapport au fait que ces défenses anti-aériennes ont été éliminées par Israël. Donc Israël considère que c'est le moment. Or, Donald Trump, lui, veut, en tout cas pour l'instant, d'après ce que l'on voit, un accord avec les Iraniens. Il ne veut pas réengager les États-Unis dans un nouveau conflit dans la région. Et c'est là tout le problème. Il y a une différence d'approche fondamentale par rapport à la question nucléaire iranienne entre les États-Unis, en tout cas pour l'instant l'administration Trump et Benjamin Netanyahou. Une différence que l'on n'a pas sur d'autres sujets que sont par exemple Gaza et le Hamas. Il reste à voir si Benjamin Netanyahou pourra peser de tout son poids pour durcir la position américaine. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin, étant donné que Netanyahou souhaite un démantèlement total des centrales nucléaires iraniennes et zéro enrichissement. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Autre question, est-ce que Netanyahou parviendra à faire échouer c'est une autre possibilité. On sait que les Israéliens, le conseiller du Premier ministre Ondermer, était présent à Rome à l'occasion des derniers pour parler et a discuté avec Steve Witkoff à l'issue de ceci, et que il n'est pas dans l'intérêt d'Israël que la diplomatie se poursuive entre l'Iran les États-Unis.
Alors justement, sur le contenu des négociations, sur le contenu d'un accord qui serait en train de se dessiner, je cite Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain dans la région, et il dit un point important concerne la vérification de l'enrichissement de l'uranium. Comme vous l'avez mentionné, il s'adressait alors à un journaliste, les Iraniens n'ont pas besoin d'enrichir à plus de 3,67%. Fin de citation. Ce n'est pas un chiffre donné au hasard. 3,67%, c'est le chiffre qu'il y avait déjà dans l'accord de 2015, dans l'accord de Vienne, Giulia Tommaso. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec l'idée que Trump voudrait son deal à lui, voudrait son deal personnel? On a l'impression que dans beaucoup des données justement de cette négociation, il reviendrait à l'accord de 2015, à l'accord dessiné par Obama.
Je pense que évidemment il y a un petit peu un paradoxe apparent avec 2015, mais c'est une stratégie, on va dire. Je trouve que ça reflète très bien aussi le personnage de Trump aujourd'hui dans ses négociations.
Est-ce qu'il n'est pas en train de refaire ce qu'il a lui-même défait?
Justement, non. Je pense que ça pourrait être le cas, et c'est peut-être qu'il a envie de dire justement. Mais il a nommé Steve Witkoff sur le sujet. Je pense que c'est pas par hasard. C'est pas par hasard qu'il ne connaît pas le dossier nucléaire comme le pourraient le connaître d'autres justement ministres et envoyés spéciaux. Aujourd'hui, c'est un choix surprenant, mais c'est un peu la diplomatie CEO de Donald Trump. C'est un peu ce côté deal maker que Trump a envie de faire justement.
Quand vous dites CEO, vous dites PDG.
Oui, voilà, exactement. Et davantage négociateur que fin connaisseur technique, finalement. Et je pense que, justement, c'est une stratégie, et c'est une négociation qui est assez particulière, parce que c'est à la fois garder la porte ouverte pour ne pas faire échouer les pourparlers d'entrée de jeu, et en même temps, donc avec des allusions initiales à un possible compromis sur l'enrichissement, et maintenir une posture de force maximale pour ne pas inquiéter les alliés comme Israël, et ni donner à l'Iran l'impression vraiment ou le sentiment que Trump accepterait un demi-accord. Donc aujourd'hui, je pense que cette valse hésitation sur Witkoff, justement, ça peut être perçu comme une improvisation ou une méconnaissance du dossier, ou au contraire, être une stratégie de Trump, justement, d'avoir ce côté imprévisible et montrer justement un mélange d'intimidation et de flatterie, finalement, qui perturberait justement l'adversaire.
Vous êtes d'accord avec ça, Armin Arefi? Je reviens sur ce chiffre de 3,67%. On retombe sur le chiffre de 2015, alors qu'aujourd'hui, le taux d'enrichissement effectif en Iran, c'est de 60%. On le rappelle qu'il faut atteindre 90% pour pouvoir construire une bombe atomique sur le plan militaire. Alors pourquoi revenir à ce 3,67%? Est-ce que, selon vous, on revient à 2015, ou c'est une autre stratégie, comme le laisse entendre Giulia Tommaso?
Bah, je pense que vous l'avez dit vous-même, 3,67%, c'est le palier fixé par l'accord de 2015, donc qui permettait à l'Iran de conserver une possibilité d'enrichir de l'uranium à des fins, selon Téhéran, civiles. Donc aujourd'hui, le fait même que les pourparlers se poursuivent indiquerait que les Américains, en tout cas en début de pourparlers, ne sont pas revenus sur ce qui est considéré par l'Iran comme un droit inaliénable. Donc, à mon sens, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on serait vers un retour à l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que cet accord de 2015, c'est avant tout pour des raisons politique que Donald Trump s'en est retiré, pas pour des raisons techniques. L'Iran respectait cet accord d'après l'Agence internationale de l'énergie atomique et que c'était sa volonté de détricoter ce qui avait été fondé par Barack Obama, couplé à la pression à l'époque d'Israël, déjà de Benjamin Netanyahou, mais également d'autres rivaux régionaux de l'Iran, à savoir l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc aujourd'hui, la situation, le problème, effectivement, là, on peut dire plein de choses et on verra au final ce qui se passera, mais on a le sentiment qu'il n'y a pas côté américain d'autre alternative que d'accepter que l'Iran conserve de l'enrichissement d'uranium. Le problème étant que, comme vous l'avez dit, l'Iran n'est plus du tout au même niveau qu'à l'accord de 2015.
Aujourd'hui, 60% aujourd'hui, hein, ça veut dire que l'Iran pourrait revenir en arrière là aussi.
Alors aujourd'hui, l'Iran est à environ 274 kilos d'uranium enrichi, hautement enrichi à 60%. C'est-à-dire que d'après le chef de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, il a tous les éléments, il a assez de matière fissile pour fabriquer la bombe. Encore faudrait-il derrière qu'il y ait miniaturisation et vectorisation, c'est-à-dire environ un an et demi de temps. Mais aujourd'hui, l'Iran a assez de combustible, l'Iran a assez d'uranium. On était à une période d'un an.
Je précise juste que c'est un vectorisation, c'est-à-dire pouvoir créer les missiles qui vont pouvoir porter,
miniaturiser
pouvoir
la porter charge, cette bombe-là. Pour ensuite la mettre sur un missile. Donc miniaturisation de la charge, vectorisation, la mettre sur un missile balistique. Lors de l'accord sur le nucléaire iranien, on était à un mois de cette possibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a perdu, nous, quand je dis nous, c'est la communauté internationale, ce laps de temps, ce qui est, à mon sens, dramatique. Ce que proposeraient les États-Unis, ce serait que l'Iran renonce à ce stock d'uranium hautement enrichi. Il y aurait des propositions sur la table, comme celle pour l'Iran d'exporter, en tout cas, de se débarrasser de ce stock et de l'envoyer pour une période donnée en Russie. C'est l'objet des discussions. Mais clairement, aujourd'hui, on n'est plus dans la position qui était celle déjà des États-Unis il y a maintenant plus de 20 ans, à savoir zéro enrichissement. C'est trop tard. Et donc, malheureusement, sur le papier, en tout cas pour l'instant, on voit mal comment... Enfin, j'ai le sentiment que la meilleure chose que pourrait négocier Donald Trump, même s'il l'appelle différemment, ce serait un retour à l'accord sur le nucléaire de 2015, qu'il a lui-même quitté de façon unilatérale. Il ne faut d'ailleurs pas oublier derrière que l'Iran s'est fait sanctionner. Plus de 1500 sanctions qui ont été prononcées contre l'Iran, qui ont étouffé son économie, qui ont touché bien sûr le régime, mais qui ont aussi touché sa population, avec quand même une inflation de la monnaie sans précédent qui est directement liée au retour des sanctions américaines, et c'est la population qui en a payé le prix. Donc clairement, on vit aujourd'hui une des conséquences des décisions désastreuses de Donald Trump qui ont été prises par Donald Trump lors de son premier mandat, il ne faut pas l'oublier.
Et qui a conduit donc peut-être à quelques années, pas mal d'années même perdues. Julia Tomasso, vous souhaitiez réagir ?
Oui, non, je suis d'accord, et je pense que je me pose justement la question, est-ce que ce ne serait pas la stratégie de Donald Trump aujourd'hui de négocier justement ce 3,67% qui est le même que 2015 pour justement intégrer après les missiles balistiques à son programme ? Pourquoi pas justement intégrer plus de choses et faire un programme aujourd'hui plus large, qui serait plus fort, qui aurait plus de symbolique aujourd'hui, et qui justement permettrait, en négociant les 3,67, de dire mais peut-être qu'on pourrait intégrer les missiles balistiques, chose à laquelle, je pense, l'Iran répliquerait que c'est impossible parce que ça fait vraiment partie de son idéologie de défense offensive. C'est un programme qui est étroitement lié avec sa doctrine militaire, et donc pour l'Iran aujourd'hui c'est un pilier vraiment non négociable. Mais peut-être que justement Trump joue cette carte du 3,67 pour pouvoir intégrer par la suite d'autres choses connexes finalement à ce programme. Et je pense qu'aujourd'hui quand on regarde,
vous pensez à quoi? Vous pensez par exemple à la question des drones, hein, qui est en suspens,
oui,
dans beaucoup des discussions aujourd'hui.
Oui, et je pense que justement ce programme de missiles balistiques qui va de pair avec le programme des drones, parce que les missiles balistiques, en fait, finalement, c'est pour créer la bombe atomique, il faut de quoi la projeter, et donc on a besoin de lanceurs balistiques qui, justement, une sorte d'ogive qu'on peut mettre sur le missile. Donc c'est finalement comme ça que c'est en intégrant et en sanctionnant ce programme que l'Iran ne pourrait pas contrôler et justement développer l'arme nucléaire.
Alors justement, en quelques mots,
c'était un des problèmes de l'accord de 2015, c'est qu'il traitait que du nucléaire et
exactement,
pas des questions régionales. Donc le soutien de l'Iran à ses groupes affidés, donc ses proxys, et son programme balistique qui effraie considérablement les voisins de l'Iran, arabes et Israël. Donc ce qui se passe côté iranien, pour l'instant, ces questions ne font pas partie des discussions. On n'y parle que de nucléaire à Oman ou à Rome. Ce qui se dit côté iranien, c'est que réalisons d'abord un deal sur le nucléaire, et ensuite, si la confiance est rétablie, on pourra parler d'autres questions, même s'il semble à l'heure actuelle hors de propos d'imaginer que l'Iran renonce à son programme balistique qui est son assurance vie. Et on l'a encore vu justement lors des frappes iraniennes contre Israël et vice-versa.
L'autre point sombre, ou du moins le point étrange de ces discussions renouées, c'est l'absence totale des Européens dans ces discussions, alors que les Européens, en tout cas notamment l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, étaient présents dans les discussions de 2015. Comment expliquer, Julia Tommaso, cette absence-là? Puis j'ajoute une autre absence flagrante, c'est l'absence de l'AIEA dans ces discussions, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Là aussi, l'acteur qui est censé vérifier que l'accord iranien en matière de nucléaire est respecté est totalement absent de ces discussions. Comment le comprendre?
Alors d'abord, du point de vue, enfin sur l'Europe, je pense que donc depuis avril 2025, là, on voit vraiment que la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne sont mis à l'écart des nouvelles négociations sur le nucléaire, et ils étaient historiquement moteurs de l'accord de 2015. Donc on voit vraiment qu'aujourd'hui les Européens sont cantonnés à un rôle d'observateur finalement. Mais je pense que c'est une situation qu'il faut lire dans
d'observateur très très lointain quand même. Hein.
Exactement, très très lointain. Et justement, il faut le lire, enfin cette marginalisation qui est très forte des Européens, il faut la lire dans le contexte de ce qui se passe actuellement dans leurs relations avec les États-Unis et du coup, dans ce cadre plus large des relations transatlantiques sous la présidence de Donald Trump. Depuis son retour, Donald Trump a adopté une position, une politique unilatérale, maximaliste. Il impose des droits de douane, comme on l'a vu, allant jusqu'à 25%. Il cible des secteurs clés comme l'automobile, l'agroalimentaire. Et je pense que cette approche a vraiment conduit l'Union européenne à envisager des mesures de rétorsion et avoir justement éviter une escalade avec les États-Unis. Mais il se place vraiment en tant que vassau finalement de Trump dans cette stratégie, et ça suscite surtout des inquiétudes quant à la fiabilité des États-Unis en tant que partenaire stratégique de l'Europe. Donc ça reflète finalement ces discussions où l'exclusion des Européens sur les discussions sur le nucléaire iranien finalement reflète une volonté de Washington de réduire leur influence et sur la scène internationale, même si de son côté l'Iran aussi souhaite négocier avec les États-Unis, car l'Europe aurait perdu cette crédibilité aussi depuis 2018 vis-à-vis du régime iranien.
Armin Arefi, même analyse. Et sur l'AIEA en particulier, comment comprendre que face à de tels enjeux techniques, quand en plus on met des négociateurs qui n'ont pas les compétences pour comprendre ce qui se joue véritablement sur le fond, sur le fond de cet enjeu nucléaire militaire, je pense notamment à Steve Witkoff, on l'a déjà dit, qui est d'abord un spécialiste de l'immobilier et un grand ami de Donald Trump, comment comprendre que l'on écarte l'AIEA de ces discussions?
L'AIEA, y compris dans les négociations qui ont mené à l'accord de 2015, a un rôle de vérification, non pas de négociation, il faut le savoir. Alors ils peuvent apporter une expertise
technique. Ils étaient quand même présents physiquement lors des négociations de l'accord de Vienne.
Ils ne faisaient pas partie des négociateurs, sauf à ce que je me trompe.
Mais
donc l'AIEA, il serait très important que les États-Unis, si un accord est conclu, puissent permettre le retour sur place des inspecteurs de l'AIEA. Il ne faut pas oublier que l'Iran a signé le traité de non-prolifération nucléaire, qui lui donne le droit à l'enrichissement, mais pas à la bombe. Et que pour l'instant, en tout cas depuis plusieurs années, les experts de l'AIEA, en tout cas les inspecteurs, ont perdu toute visibilité sur les activités, y compris controversées, de l'Iran. Pour revenir sur les Européens, je pense que ce serait important, je pense que ça s'inscrit un peu dans le cadre de ce qui s'est passé avec l'Ukraine, à savoir que nous, Européens, on a été mis sur la touche, alors qu'on est quand même concernés au premier chef. Faut pas oublier non plus que lorsque Donald Trump s'est retiré unilatéralement de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 en 2018, que respectait pourtant l'Iran a donné un an aux Européens pour essayer justement de trouver la parade et de permettre aux entreprises, par exemple, européennes, de rester en Iran et de ne pas être visées par les sanctions. Sauf que les Européens n'ont rien pu faire et que, alors que les sanctions étaient des sanctions américaines, celles qui ont été rétablies, les Européens, les entreprises européennes ont été tout bonnement impactées, expulsées.
Alors donc, ils payent aujourd'hui leur échec du point de vue iranien?
D'une certaine manière, lorsque les Iraniens font miroiter à Donald Trump et son administration la possibilité que les entreprises américaines
celle du grand Satan, reviennent dans le marché iranien vierge, effectivement, que ce n'est pas vu d'un très bon œil côté européen. Maintenant, il faut pas oublier quand même que les Européens gardent un levier très important, c'est-à-dire le snapback. Snapback, c'est quoi? C'est le mécanisme qui pourrait permettre le rétablissement des sanctions de l'ONU avant même l'expiration de l'accord sur le nucléaire de 2015. Cet accord qui est toujours en place, même si les deux parties, en tout cas les Américains et les Iraniens, ne le respectent plus, il y a ce levier de pression. Il y a aujourd'hui une volonté américaine que les Européens réactivent ce mécanisme. Et donc, d'une certaine manière, qu'ils le veulent ou non, les Européens continuent et continueront à jouer un rôle en sachant, comme l'a dit ma voisine, que les Européens ont toujours joué un rôle fondamental, et notamment la France, dans les négociations avec l'Iran et dans la conclusion d'accords forts, stricts et vérifiables. Dernière chose, aujourd'hui, on voit dans les déclarations du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, une certaine inquiétude. Quand il demande justement que les inquiétudes des Européens soient prises en compte par les Américains, on sent clairement que les Européens sont mis de côté et d'autre part qu'ils sont un peu surpris des positions américaines qui ne sont pas celles que les Européens, le 3, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France tiennent depuis maintenant plusieurs années, plusieurs mois en tout cas, dans leurs discussions qu'ils ont et qu'ils continuent d'avoir avec les Iraniens.
Julia Tomasso, est-ce que le modèle libyen, dans le cadre de ces discussions, est envisageable? On rappelle que le modèle libyen, c'est le démantèlement complet d'un programme nucléaire. Hein, c'est ce qui s'était passé au mi-temps des années 2000, hein, et Muammar Kadhafi avait été assassiné quelques années plus tard. Ce lien entre le retrait total, le démantèlement complet d'un système, d'un programme nucléaire et l'assassinat, ou en tout cas un système institutionnel qui s'effondre quelques années plus tard, ça reste très vivement ancré dans l'imaginaire iranien. C'est ce qui s'était passé en Irak avec Saddam Hussein, c'est ce qui s'était passé avec Muammar Kadhafi en 2011. Est-ce que là, on pourrait imaginer que les Iraniens s'engagent sur la voie d'un démantèlement complet?
Je pense que évidemment, il y a un traumatisme peut-être dans l'imaginaire iranien sur ce sujet-là. Je pense en revanche qu'ils ne céderont pas sur le démantèlement complet, ou ils essaieront du moins dans ces négociations actuellement, je parle parce que je sais qu'elles vont continuer par la suite, mais aujourd'hui dans leur technique de négociation, je pense que les négociateurs iraniens sont vraiment chevronnés, ils ont pratiqué ça pendant des années, ils ont l'habitude de ce jeu un peu diplomatique justement, et le mantra iranien, c'est vraiment gagner du temps et ne concéder qu'en échange de gains concrets. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils ne démantèleraient pas complètement le programme nucléaire iranien s'ils n'avaient pas des preuves concrètes de la levée des sanctions, du moins partielles. Et je pense que dans leurs négociations, justement, il y a quand même une asymétrie par rapport aux demandes américaines et justement dans le rôle que Donald Trump joue dans ces négociations. Et on voit justement, paradoxalement, tout en négociant, l'Iran maintient la possibilité de monter la mise s'il estime justement l'offre insuffisante. Donc je pense qu'il y a dans cet imaginaire, il y a le modèle libyen, évidemment. Je pense en revanche que les négociateurs iraniens ont l'habitude de ce genre de dossier.
Armin Arifi, en matière nucléaire, l'Iran est une puissance de seuil, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore la bombe nucléaire. On l'a dit plusieurs fois dans cette émission, on l'a bien compris. À quoi ça leur sert justement de jouer ce jeu, de continuer à jouer ce jeu? Est-ce que c'est un moyen presque vital pour exister sur la scène internationale? C'est leur premier levier pour exister dans les rapports de force?
Il y avait récemment une formule d'un diplomate israélien avec lequel je discutais qui me disait si le régime iranien, qui comparait ça à un jeu d'échecs, si le régime iranien c'est le roi, le nucléaire c'est la reine, et que l'Iran ne sera prêt sous aucun prétexte de se débarrasser de la reine, ce qui signifierait derrière que le roi serait nu. Pour revenir à une question, déjà, par rapport au cas libyen, en Iran, quand on parle en tout cas avec des diplomates iraniens, le cas libyen, c'est une fin de non-recevoir, c'est juste pas possible, parce qu'ils se disent, regardez ce qui est arrivé avec Muammar Kadhafi, qui s'est débarrassé de ses armes de destruction massive.
Ça a conduit à l'effondrement du régime.
Il s'est fait renverser. Regardez ce qui s'est passé avec Saddam Hussein, même chose, il a mis de côté ses armes de destruction massive, il s'est fait renverser. Pareil d'ailleurs, on nous rappelle aussi le cas ukrainien, si l'Ukraine avait gardé ses armes, peut-être qu'il n'aurait pas été envahi par la Russie. Ce qui revient en Iran, c'est notamment le cas de la guerre Iran-Irak. Ils
se souviennent qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Saddam Hussein, soutenu par l'ensemble de la communauté internationale, notamment l'Occident, envahisse l'Iran au lendemain de la révolution de 1979. À l'époque, des armes chimiques, d'ailleurs vendues notamment par l'Allemagne, avaient été utilisées contre la population iranienne, les soldats iraniens, mais ensuite contre la population irakienne, les Kurdes. Les Iraniens, à l'époque, se disaient que s'ils avaient eu des armes de destruction massive, notamment la bombe atomique, jamais Saddam Hussein n'aurait osé une telle chose. Pour l'Iran, aujourd'hui, la bombe, et pour le régime, c'est une question d'assurance vie. Et c'est là tout le problème. Est-ce qu'ils seront prêts à renoncer à tout ce programme sur lequel ils ont investi pendant des années? Je ne suis pas certain. Autre scénario, et qui semble également possible, on ne sait jamais, c'est que l'Iran, au milieu des négociations pour lesquelles il est en train de gagner du temps, annonce qu'il a, en tout cas c'est aux négociateurs américains, qu'il dispose de la bombe atomique. Ce n'est pas à écarter. Comme le disait le chef de l'AIEA, l'Iran n'a jamais été aussi proche de la bombe atomique. Il n'est pas certain qu'après des années d'investissement là-dessus, il se laisse aller à s'en débarrasser de manière unilatérale. S'il le fait, ce sera avec de très très fortes contreparties. Reste à savoir si Donald Trump sera en mesure de les offrir à l'Iran.
Négociation donc à suivre. Merci à tous les deux de ces éclairages. Armin Arefi, grand reporter au Point, Julia Tomasso, enseignante chercheuse à l'IRIS. Merci à tous les deux.
Merci.